L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Maître Arnaud Develet, juriste international et journaliste. Avec lui, nous allons analyser le réquisitoire contre Vladimir Poutine formulé par l'ex-ministre français de la Justice, ex-sénateur et ancien président du Conseil constitutionnel Robert Badinter. Dans un livre publié aux éditions Fayard sous le titre « Vladimir Poutine, l'accusation », coécrit avec Alain Pellet et Bruno Cotte, respectivement ancien membre de la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale et ancien président de la Commission du droit international des Nations Unies. Il affirme que Poutine a lancé l'opération militaire spéciale en Ukraine sous le prétexte fallacieux de crimes commis contre les Russes et les russophones du Donbass par des Ukrainiens néo-nazis. Tous les développements autour de ce sujet, dans quelques instants, avec Maître Arnaud Develet, juriste en droit international, consultant politique et journaliste sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Après le coup d'État de 2014 en Ukraine, appuyé par les pays occidentaux, notamment les États-Unis, les deux républiques du Donbass, dans l'est du pays, ont organisé un référendum sur leur statut d'autonomie. Il ne s'agit pas d'indépendance, comme se plaisent à le répéter les médias occidentaux. En effet, comme le montre clairement le bulletin de vote, la question posée aux citoyens de Donetsk et Lugansk lors de ce référendum était bel et bien relative à l'autonomie. Comme vous le savez tous, c'est à partir de 2014 que la guerre du Donbass commence. En effet, durant 8 ans, les forces ukrainiennes n'ont cessé de bombarder cette région, faisant au moins 14 000 morts selon les chiffres fournis par les Nations Unies. Par ailleurs, la situation n'était pas la même pour les habitants de Crimée qui, eux, ont effectivement participé à un référendum d'autodétermination. Cette consultation, rappelons-le, a été organisée à la suite de l'imposition par Kiev de l'utilisation exclusive de la langue ukrainienne au détriment du russe. Les Européens et les Américains ont tout de suite rejeté les résultats de cette consultation, estimant qu'elle n'avait pas été organisée dans de bonnes conditions. Ils ont même accusé la Russie de l'avoir trafiquée pour que le oui atteigne des proportions exorbitantes, ce qui lui a permis, selon eux, d'annexer la Crimée par la suite. Or, il faut bien rappeler que la Crimée avait déjà organisé un référendum d'autodétermination en décembre 1991. C'est-à-dire en pleine période de démembrement de l'URSS, dont les résultats sont quasiment identiques à ceux obtenus en 2014. Après cette consultation référendaire, la République de Crimée a effectivement existé en 1992 à 1994, succédant à la République socialiste soviétique autonome de Crimée avant que Kiev n'annule les résultats de ce référendum en mars 1995, réintégrant la Crimée par la force à l'Ukraine en lui accordant néanmoins un statut autonome. Après son élection comme président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a non seulement dressé des monuments en hommage à Stepan Bandera, le chef des collaborateurs nazis durant la Seconde Guerre mondiale, mais il a même promulgué le 21 juillet 2021 une loi sur les peuples autochtones d'Ukraine discriminatoire à l'égard des russophones du Donbass. Le régime actuel a proposé la création d'un prix d'État ordre de Bandera, au travers d'une pétition apparue sur le site web du bureau du président de l'Ukraine. Créer la récompense d'État, ordre de Stepan Bandera, et récompenser les militaires pour leur héroïsme et leur courage dans la défense de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, indique la pétition. Les accords de Minsk adoptés et signés le 12 février 2015 par toutes les parties qui ont également signé le protocole de Minsk du 5 septembre 2014 et le mémorandum de Minsk du 19 septembre 2014. Or, les dirigeants occidentaux, dont Merkel et Hollande, n'ont jamais eu l'intention de faire respecter les accords de Minsk. Ces derniers ont au contraire souligné, sans ambiguïté, dans des déclarations publiques, que l'objet des négociations était de gagner du temps afin de permettre à l'Ukraine de réarmer en vue de reprendre le contrôle des régions du Donbass et de la Crimée par la force. Le 21 janvier 2022, le ministère russe de la Défense fait part de l'existence de plans d'attaque militaire ukrainien en direction du Donbass et de la Crimée. Pendant tout ce temps, les autorités ukrainiennes réfutent l'idée de préparatifs russes pour une opération militaire dans le Donbass. En effet, les autorités ukrainiennes affirmaient qu'il n'y avait pas de changement à sa frontière depuis le printemps. C'est en février 2022 que la situation militaire bascule. En effet, depuis le 16 février, les observateurs de l'OSCE notent dans leur rapport quotidien l'augmentation dramatique des bombardements d'artillerie sur les populations du Donbass. Alors que ni les médias, ni l'Union européenne, ni l'OTAN, ni aucun gouvernement occidental n'a réagi non plus que dénoncer ces attaques. C'est dans ce contexte que le président Poutine annonce le 22 février la reconnaissance des deux républiques du Donbass et signe avec elles le même jour un traité d'assistance et d'entraide. Le 23 février, lors d'une séance plénière au Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à l'évolution de la situation dans le Donbass, le secrétaire général de l'instance, Antonio Guterres, n'a strictement rien dit sur la question de la légalité de la reconnaissance de la Russie, de l'indépendance des deux républiques de Lugansk et de Donetsk, comme l'indique le compte-rendu officiel de cette séance publié sur le site de l'ONU. Le 24 février, Vladimir Poutine annonce le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Pour développer sur tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir Maître Arnaud Develay, juriste en droit international, consultant politique et journaliste, aux accusations mentionnées avant portées contre le président Poutine. Arnaud Develay, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Alors, en partant des faits, même si j'ai été un peu lent pour rappeler ces faits, mais je crois que c'était très très important de les rappeler, en tant qu'avocat international et juriste international spécialiste du droit international, comment jugez-vous les arguments avancés par les auteurs sur ce qu'ils appellent un crime d'agression ?
Alors effectivement, ben c'est un, si je puis dire, c'est vraiment le péché originel dans l'analyse juridique qui peut être faite pour explorer la possibilité de se dire que le président de la Fédération de Russie aurait, se serait rendu, et donc son pays au travers de la fonction qu'il occupe, coupable d'exactions qui violeraient le droit international pénal. La vraie question, donc, c'est est-ce que nous sommes en présence d'un crime d'agression, ainsi que les médias occidentaux nous le rabâchent depuis le début de l'opération militaire spéciale russe, le 24 février 2022. Je pense personnellement que ce n'est pas le cas, et que pour ce faire, il faut remonter, bien sûr, dans le contexte qui voit des négociations, si je puis dire, faites de mauvaise foi. Donc, en contrevenance totale de l'esprit de la Charte des Nations Unies, à cet égard, et qu'après, on va dire, 8 ans de bombardements incessants sur une population civile qui, bien sûr, ne présente aucun objet militaire, en violation totale de 3 des 15 points du mémorandum de Minsk de septembre 2014.
Et qui, rappelons-le, ont été entérinés par le Conseil de sécurité.
Qui ont été entérinés, ainsi que les accords de Minsk 2 du 12 février 2015, au travers de la résolution 2202 des Nations Unies. Et qui devait être, dont la France et l'Allemagne étaient les États garants. Au travers des rapports de l'OSCE. Et on s'aperçoit que non seulement ces bombardements n'ont jamais cessé, c'était l'un des points fondamentaux, que deux, en vertu du paragraphe 11 de la résolution suspensionnée, les autorités séparatistes à l'époque, auraient dû être consultés et s'entretenir avec leurs homologues à Kiev afin de choisir des listes de personnalités représentantes de la volonté des provinces de, comment dirais-je, ou des républiques, on devrait dire, de Luhansk et de Donetsk, de représenter donc les intérêts bien compris de ce qui s'était passé lors de leur déclaration unilatérale d'indépendance, voire autonomie. À l'époque, on est encore dans une discussion, dans un contexte qui parle d'autonomie. Et que, en fait, la Rada a adopté effectivement une loi allant dans ce sens-là, mais sans consulter les dirigeants régionaux et en présentant en fait leurs propres candidats à eux, dont on peut penser qu'ils auraient complètement fait fi des revendications de Donetsk et Lugansk. Donc ça, c'était la première encoche, incartade, si je puis dire, de l'esprit de ce qui avait été négocié. Le deuxième, bien sûr, c'est la possibilité pour les Ukrainiens russophones de pouvoir pratiquer leur langue. Il existait depuis 2012 une loi reconnue constitutionnelle en droit ukrainien qui permettait dans toutes les régions où il était documenté l'existence d'au moins 10% de la population parlant le russe, que le russe deviendrait dans ces régions une langue officielle qui permettrait aux russophones de la pratiquer, de la voir se faire enseigner à l'école, etc., etc. Que dès le coup d'État du Maïdan, donc on est en février 2014, la Rada adopte une résolution.
Je rappelle que la Rada, c'est le Parlement ukrainien.
Le Parlement ukrainien, donc de l'État centralisé ukrainien, hein, à Kiev. Adopte donc une résolution visant à invalider la loi de 2012. Il est à noter que le président de la Rada, comme si il avait senti que l'histoire ne jugerait pas favorablement sa signature au bas du document, refuse de signer. Ce qui fait qu'en fait, la résolution reste en suspens. Et elle reste en suspens jusqu'en 2018, où là, on rentre carrément dans un paradigme. Voilà, il déclare la loi de 2012 comme violant la constitution d'Ukraine. Donc, de facto, déjà entre 2014 et 2018, même si cette résolution n'est pas adoptée, dans les faits, les russophones sont discriminés, et c'est un deuxième point du mémorandum de Minsk qui est violé. Mais en plus de ça, en 2018, ils enfoncent le clou en obtenant une décision judiciaire ukrainienne, de l'accord constitutionnel ukrainien, qui rend en fait la loi de 2012 portant sur les droits fondamentaux des russophones, inconstitutionnel, ce qui de facto entérine ce système un peu d'apartheid au sein même de l'Ukraine, entre Ukrainiens. Et donc dans ce contexte-là, on a une violation donc, du critère sur le droit de pouvoir parler russe, sur le bombardement continu des civils des deux
qui,
républiques.
Qui, je rappelle, a fait plus de 14 000 morts selon les statistiques de l'ONU.
Oui, alors je crois même que le chiffre est revu à la hausse. Maintenant, on parle plutôt d'entre 19 et 20 000 morts depuis l'opération militaire spéciale, parce que ces bombardements se sont intensifiés. Vous l'avez souligné dès le 16 février 2022, ce qui laisse entendre que avant d'initier une offensive terrestre, comme on l'avait vu en Irak en 91, on bombarde intensément pendant deux semaines pour essayer de ramollir les défenses aériennes. Et une fois qu'on sent que le gâteau est tendre, on rentre. Mmh. Donc, et depuis, avec l'opération militaire spéciale, bien sûr, les choses sont claires maintenant. Les Ukrainiens ont continué à bombarder. Alors, je dis les Ukrainiens, je devrais dire... parce que maintenant, c'est un secret de polichinelle, les forces otano-ukrainiennes.
Absolument. Hein,
les populations civiles du Donbass, en toute impunité, avec des déclarations hallucinantes. Plus le temps passe, plus on s'aperçoit qu'on a quand même des sacrés personnages au plus haut niveau de la junte ukrainienne qui, maintenant, commencent à caractériser leurs déclarations en prenant en cible
les Russes,
où qu'ils soient. Voilà.
Je vais en venir à ça. Alors, ma deuxième question, M. Badinter, donc, et ses deux co-auteurs, disent, je cite, « Quelle qu'ait été la véritable ou la véracité des accusations russes concernant la violation par l'Ukraine de certains droits humains, accusation sur lesquelles nous ne prenons pas position, elle ne saurait justifier l'emploi de la force armée pour y mettre fin. » Alors, maintenant, il question ici de ramener quelqu'un devant un tribunal, devant un juge. Donc, Comment en effet pourrait-on et pourrait-il être concevable de rédiger un acte d'accusation à l'encontre d'un dirigeant en admettant en même temps l'existence de faits qui soulignent que l'arrêt des bombardements sur les zones civiles n'a jamais été pris en compte par la France et par l'Allemagne?
Bah écoutez, moi je dois dire que c'est vraiment la phrase de l'ouvrage qui m'a le plus interpellé, parce que comment peut-on, dans ce contexte précis, faire fi d'une situation préexistante depuis 8 ans, si on prétend imputer des faits d'agression au président de la Fédération de Russie, alors que celui-ci a fait montre de retenue et de patience, qu'au travers des accords de Minsk, on est dans l'esprit de l'article 2, paragraphe 3 de la charte, qui enjoint tous les États membres à prendre toutes les précautions concrètes pour essayer de préserver la paix, voire, pour peu qu'il y ait un début de conflit, de parvenir à une sortie de crise de manière pacifique. Les accords de Minsk, on est exactement dans cet esprit. Donc, c'est difficile de concevoir que, pour pouvoir justifier une conclusion, de manière ontologique, on prend la conclusion de ce qui s'est passé, in fine, le 24 février 2022, et on en fait un raisonnement en tant que tel, en faisant complètement fi, encore une fois, de postulats factuels qui, s'ils se doivent d'être caractérisés en droit, remettent en question complètement l'analogie selon laquelle il s'agirait d'un acte d'agression de la part de la Fédération de Russie, alors que, c'est très important de le souligner, l'annexe 2 de la résolution 2202 est très explicite, elle enjoint toutes les parties à l'accord de faire de manière conjointe et ou individuelle tout ce qui est possible en leur pouvoir pour garantir le succès des accords de Minsk. Donc, quelque part, l'opération militaire spéciale, et c'est important de souligner que ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est une opération chirurgicale, c'est un, on va dire, un complément dans la boîte à outils qui permet déjà d'essayer d'enjoindre les bombardements sur les civils de cesser et de rétablir les citoyens ukrainiens russophones dans leurs droits. Donc, on est parfaitement dans la logique, dans l'esprit de la charte, article 2, paragraphe 3, et ce faisant, il est en même temps important de souligner que le président de la Fédération de Russie applique la reconnaissance donc de la déclaration d'indépendance, cette fois-ci, quelques jours avant, parce qu'on a eu la déclaration de 2014, mais on a eu aussi les déclarations de 2022, où là, ils se sont déclarés comme État. Or, l'article premier de la Convention de Montevideo sur qu'est-ce qui constitue un État...
Une souveraineté.
Voilà, c'est la souveraineté, et c'est surtout la reconnaissance, le contrôle de ses frontières, une certaine homogénéité, un accès au point d'accès.
Donc, à partir de là...
C'est la reconnaissance de Moscou qui entérine, qui donne vie à cette déclaration d'indépendance, cette fois-ci, bien comprise.
Puisque c'est une demande officielle de ces pays indépendants pour une aide militaire, donc, c'est tout à fait
État
légal.
État à État, on tout a des traités légal. D'entraide qui sont
Je crois
signés.
Que c'est la raison pour laquelle Antonio Guterres n'a pas osé, parce que c'est conformément...
C'est embêtant.
C'est conforme, bien.
Donc on est de facto, après si on revient à la justification de l'emploi de la force armée, puisque c'est ce dont M. Badinter parle, on est dans... alors, si on fait une analogie en droit pénal général, c'est la défense d'autrui. Et d'ailleurs, on y reviendra plus tard, mais on s'aperçoit que lorsque l'opération militaire spéciale progresse et découvre certaines choses en Ukraine, en ex-Ukraine, on va dire les choses pour ce qu'elles sont maintenant, on peut penser même rétroactivement que la Russie pourrait aujourd'hui remplacer la défense d'autrui pour l'autodéfense. Et je parle en cela, je fais référence en cela aux laboratoires qui ont été découverts et dont les activités
d'armes
sont très inquiétantes.
Biologiques et bactériologiques.
Voilà. Donc,
26 laboratoires.
36 laboratoires en Ukraine-Hollande. 36. Donc, voilà. Et jusqu'à présent, la République populaire de Chine, la Fédération de Russie ont essayé de rejoindre les États-Unis, de s'expliquer sur les activités, la nature des activités dans ces laboratoires qui, visiblement, n'a rien à voir avec, justement, préserver le fait que certains pathogènes puissent s'échapper. Mais qui leur permet juridiquement de ne pas violer le droit américain, qui, lui, justement, empêche certaines de ces activités d'être entreprises sur le sol américain.
Donc, une troisième question, et qui est très importante, c'est les allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Alors, la CPI, dont on connaît un peu les déboires dans d'autres affaires, concernant par exemple les exactions des soldats américains en Afghanistan.
Ou en Irak,
hein, surtout en Irak. Qu'est-ce qu'ils avancent exactement comme argument pour dire, parce que c'est quand même une accusation grave.
Alors c'est intéressant parce que pour pouvoir parler de crimes de guerre et ou crimes contre l'humanité, encore une fois, ça laisse entendre qu'un crime d'agression a eu lieu. Mmh. Puisque, comme disait l'ancien procureur du tribunal de Nuremberg, Robert Jackson, l'acte d'agression, c'est vraiment celui qui englobe tous les autres. Donc c'est difficile de parler de crime contre l'humanité ou de crime de guerre si on n'arrive pas à établir au départ qu'il y a une agression illégale d'un pays sur un autre.
Et injustifiée.
Justifié en tout cas, validé soit par une résolution du Conseil de sécurité à cet effet, mmh. soit, et c'est mon positionnement, dans un contexte qui voit la défense d'autrui être invoquée, mmh. À la lumière de faits qui existent depuis un certain temps et qui sont extrêmement bien documentés, même si les médias occidentaux se gardent bien, jusqu'à aujourd'hui, d'en faire état. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine. Hein, c'est pour ça qu'on n'en parle jamais. C'est complètement occulté en Occident. Donc, quelque part, c'est un petit peu le problème fondamental. C'est-à-dire, même la Cour pénale internationale, et on reviendra sur la juridiction, la compétence que celle-ci pourrait exercer sur la Fédération de Russie et ses responsables et ses dirigeants, n'a pas retenu ce critère. Elle a retenu pour l'instant un transfert présumé d'enfants contre leur gré. Mmh. Voilà. Donc, on est très loin des accusations d'agression qui sont reprises de manière sempiternelle depuis maintenant plus d'un an. Et dans ce contexte-là, c'est intéressant parce que si on s'en tient à ce qui est factuellement relaté dans le livre de M. Badinter, on retrouve exactement les mêmes éléments de langage que le département d'État, au travers de ses médias, de ses branches médiatiques, raconte depuis, encore une fois, 14-15 mois maintenant. Et moi, ce qui m'interpelle, eu égard à ces allégations, c'est que elles sont reprises un peu de manière systématique, un peu comme un mantra. Et quand elles sont prononcées par quelqu'un qui, quand même, bénéficie d'une certaine, certaine plateforme, notoriété, dont la carrière et la connaissance du droit ne fait aucun doute, on ne peut s'étonner par rapport au fait que, il n'ait pas été mis en œuvre davantage de précautions ou de mesures prophylactiques.
Et pourquoi la CPI a reçu des fonds juste après, alors qu'elle était pas très lotie, et juste après la déclaration du mandat international, elle a reçu des fonds.
Alors, c'est intéressant. Enfin, si je devais personnellement m'exprimer sur l'apparence du manque d'impartialité mmh. et d'indépendance de la Cour pénale internationale, qui pour le coup, je crois, va sonner son glas, ce qui est assez dommage quelque part, puisque l'idée au départ, sur le papier, paraissait belle, celle de cristalliser par le biais d'un traité une instance judiciaire permanente qui aurait été chargé de juger des responsables d'État s'étant rendus coupables des crimes les plus graves. On avait déjà eu des problèmes depuis plusieurs années qui portaient sur cette propension à poursuivre plutôt des dirigeants africains ou du Moyen-Orient.
Ouais, surtout.
Voilà. Et cela, malgré... Alors bon, certains diront que les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Rome. Mais il n'empêche que voilà, la Russie non plus, et malgré tout, on engage la responsabilité pénale du président de la Fédération de Russie. Alors, si on prend en fait en compte que le traité de Rome rentre en vigueur en 2002, après la signature de 60 États, on pourrait effectivement se demander pourquoi l'agression de 2003 ne fait pas l'objet d'un tel volontarisme.
Nous allons y revenir. Nous allons y revenir dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, nous y reviendrons. Alors, la dernière question, il nous reste 3 minutes, sur les transferts forcés de population. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, de ce qui est contenu dans le livre? Et puis, moi, j'aimerais bien tirer l'attention pourquoi ce livre ou ses auteurs ne relèvent-ils pas la récente déclaration du chef de renseignement militaire ukrainien, Kirill Budanov, concernant sa détermination, je cite, à continuer à tuer les Russes où qu'ils puissent se trouver sur la surface du globe.
Alors déjà, revenons sur cette allégation de transfert forcé d'enfants. Essentiellement, cela concerne la zone de Kharkov et ses alentours, qui, on s'en rappelle, en septembre dernier, pour des raisons que je ne veux pas évoquer ici, ont fait l'objet d'une évacuation des forces russes, qui étaient là depuis février. Et donc, quand les forces ukrainiennes arrivent, forcément, ils reprennent contrôle de la zone, et c'est un peu les règlements de compte qui commencent. Parce que tout le monde n'a pas eu, en tout cas ceux qui attendaient, ou avec une certaine soulagement, la présence des forces russes, se retrouve maintenant à nouveau sous le joug ukrainien. Ce qui s'est passé, c'est qu'en août, durant l'été 2022, donc quelques semaines avant, il y a eu des programmes, un peu de colis de vacances, qui ont été instaurés en Crimée, qui permettaient aux parents d'enfants qui vivaient dans la zone d'envoyer leurs enfants dans un environnement qui permettrait à ces derniers d'échapper au traumatisme de la guerre. Donc beaucoup de ces enfants se sont retrouvés effectivement en Crimée. L'accord des parents a été bien sûr obtenu. Quand les forces armées ukrainiennes reprennent le contrôle de la zone, il est important, et on l'a vu à l'instar de la mise en scène à Boutcha et aussi à Izium, où on s'est aperçu que, localement en tout cas, c'était difficile de maintenir le narratif. On a besoin de quelque chose, on a besoin de faire feu de tout bois pour essayer d'imputer, encore une fois, des faits répréhensibles à la Fédération de Russie. Et ça fait partie, quelque part, de cette guerre de l'information dans laquelle nous sommes plus qu'autre chose aussi, il ne faut pas le perdre de vue. Et des pressions ont donc été exercées, certainement, on peut le penser, parce que des témoignages, effectivement, sont produits à l'appui des enquêtes menées par la CPI. Et donc, ces témoignages, on peut penser, ont été obtenus sous la contrainte, tout simplement. Dans une atmosphère de règlement de compte, où les russophones qui sont restés sur place se retrouvent un petit peu quelque part convoqués par la branche locale du SBU. On leur dit, voilà, si...
C'est les SBU, c'est les services...
C'est les services grands ukrainiens, voilà, dont on sait que tous les coups sont bons.
D'accord.
Et ils se livrent à tous les moyens sont bons, et donc le chantage, la menace est de mise, et c'est très facile pour eux... Ce faisant, d'enjoindre ses parents de signer des déclarations qui laissent entendre que leurs enfants leur ont été retirés sans leur consentement.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, Arnaud Develay, pour la seconde partie de notre émission. Après une courte pause musicale, à tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Arnaud Develay, juriste en droit international, consultant politique et journaliste. Arnaud Develay, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre émission.
Merci à vous, toujours un plaisir.
Merci, tout le plaisir est pour nous. Alors maintenant, j'aimerais bien faire une toute petite récapitulation de certains faits, parce que, comme on dit, comparaison n'est pas raison, mais quand même, ça peut apporter pas mal de dissonance pour stimuler l'intelligence des gens à réfléchir par eux-mêmes. Bien, alors, le 9 avril dernier a marqué le 20e anniversaire de la chute de la capitale irakienne Bagdad, résultat de la guerre lancée le 20 mars de la même année, c'est-à-dire en 2003, contre l'Irak par les États-Unis de George Bush et son administration néoconservatrice et le Royaume-Uni de Tony Blair. Durant les 10 années d'occupation brutale de l'Irak par les troupes américaines et leurs alliés, plus d'1 million Irakiens ont été tués. En effet, cette invasion a engendré une guerre civile, sectaire, des millions de personnes déplacées et démunies et un terrorisme qui a englouti tout le Moyen-Orient, débordant également vers de vastes pans de l'Afrique et de l'Asie. Les mois de mars aussi a également marqué d'autres anniversaires odieux d'agressions militaires américaines et occidentales illégales qui honteusement se sont heurtées au même silence et à la même indifférence occidentale. Le 19 mars, par exemple, a marqué le bombardement de la Libye par l'OTAN en 2011, sous le prétexte cynique de protection humanitaire et en outrepassant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Idem le 24 mars, 1999, l'OTAN, dirigé par les États-Unis, a unilatéralement commencé à bombarder l'ex-Yougoslavie pendant 78 jours consécutifs. Des milliers de civils ont été tués dans un assaut militaire contre ce pays sous le même prétexte cynique de protection humanitaire qui n'a pas également été approuvé à l'époque par les Nations Unies. La campagne de bombardement a été menée comme la guerre en Irak, seulement 4 ans plus tard, sur la base d'une action unilatérale de Washington et de ses alliés occidentaux. 20 ans plus tard, il y a un étrange sentiment d'amnésie collective parmi les politiciens et les médias occidentaux face aux crimes de guerre colossaux commis en Irak, mais aussi en Yougoslavie et en Libye. C'est presque comme si cela ne s'était pas produit. Pire encore, et d'une manière méprisable, si l'homme qui a fait la lumière sur ces crimes en Irak, le journaliste Julian Assange, qui est croupi en prison. Alors, Arnaud Develay, comment peut-on analyser toutes ces guerres-là qui ont été déclenchées d'une manière illégale? Pourquoi cette deux poids, deux mesures? Et comment peut-on expliquer que ça a existé? Il y a des millions de gens qui sont morts, mais là, on ferme les yeux.
Oui, mais écoutez, là, vous venez de résumer, en fait, l'esprit de l'unilatéralisme et du monde unipolaire tel qu'on a essayé encore récemment de nous l'imposer, jusqu'à ce que, effectivement, l'opération militaire spéciale renverse complètement la table sur ce qui se passait depuis 25 ans. Et dans ce contexte-là, on a pu voir simplement que le droit international a été complètement mis de côté, délaissé, en faveur d'objectifs inavouables qui portaient sur une réorganisation du monde avec l'OTAN et les États-Unis en son sein comme étant les gendarmes du monde. Et ce faisant, il a fallu, je dirais, prendre certaines libertés dans le narratif imposé à l'opinion publique. Et au sein du Pentagone, on avait ce bureau des plans spéciaux qui était géré par Abraham Chulsky et Douglas Feith, et dont le travail était de créer des mensonges d'État qui seraient ensuite colportés sur les médias continus, les 24 heures continues, avec toujours les mêmes éléments de langage et les mêmes personnages qui étaient présentés sur ces plateaux de manière répétée et obsessive, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'opinion publique soit complètement convaincue, parce que j'étais à l'époque aux États-Unis durant cette séquence qui a précédé la guerre en Irak, et je peux vous dire que, certes, l'opinion était assez partagée, mais il y avait quand même une majorité de gens qui étaient complètement vendus sur l'idée que le président irakien était responsable des attentats du 11 septembre. Ce qui nous amène à la façon de penser des néoconservateurs, qui, si on se penche sur les écrits de leur fondateur, Léo Strauss disait que quelquefois, il faut utiliser ce qu'il appelle, lui, le mensonge noble. Parce que l'opinion publique n'est pas sophistiquée et qu'on ne peut pas prendre trop de temps à essayer de les éduquer sur des choses qui après tout, voilà. Et donc, il faut savoir prendre certaines libertés avec la réalité pour pouvoir mieux ensuite, si je puis dire, parvenir à ses fins. Ce qui est une forme de trotskisme, quelque part. On ne se préoccupe pas du tout des moyens employés tant que la finalité en elle-même... Ouais. Les néoconservateurs, je dis ça, pourquoi ? Parce que ce sont, quelque part... les enfants et petits-enfants de trotskistes qui ont ensuite émigré en Occident.
Absolument.
Donc, voilà, c'est la même méthode, c'est juste qu'on on transporte la révolution permanente prolétarienne, et on la transporte et on la remplace par l'exportation du modèle démocratique. Voilà.
La guerre permanente, les changements de régime...
Et l'imposition de la démocratie, n'oubliez jamais ça.
Oui, entre guillemets. Bien. Alors, je vais rebondir quand même, et disant les choses comme elles doivent être dites. Le 20e anniversaire de la guerre américano-britannique contre l'Irak devrait être l'occasion, normalement, de traduire devant la Cour pénale internationale, la CPI, pour crimes de guerre aux normes de Nuremberg, les personnalités politiques et militaires américaines et britanniques, à la tête George Bush, Tony Blair, même l'actuel président des États-Unis, qui était aussi aux affaires au Sénat, Dick Cheney. Pour leur rôle crucial à l'époque pour autoriser la guerre. Alors, mais également les médias occidentaux, tels que le New York Times, le Washington Post, qui ont diffusé en masse les mensonges en faveur de la guerre. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, pourquoi rien n'est fait dans ce sens ? Pourquoi d'un seul coup cette CPI a le courage de sortir de l'ombre ou de sortir de sa tombe pour lancer un laconique mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Et puis, qu'est-ce qui garantit l'impunité à ces dirigeants occidentaux, alors qu'ils le reconnaissent eux-mêmes? Dick Cheney, par exemple, en 2004, il a reconnu qu'il avait lui-même couvert le supplice de la baignoire, la torture. Il avait ordonné la torture, il l'avait couvert. Moi, j'ai lu des rapports déclassifiés où les gens qui torturaient à Abu Ghraib faisaient des briefings pour le vice-président et lui répondait. Qu'est-ce qui assure l'impunité? Pourquoi qu'est-ce qui se passe?
Je pense que tout simplement, cela a à voir... Alors, qu'est-ce que c'est que le droit international public ? C'est une affaire, c'est un rapport de force. Donc à partir du moment où vous avez un État, un hégémon, comme les États-Unis, qui, au lendemain de la guerre froide, et militairement, à tout le moins, voire économiquement, la grande puissance prééminente de cette période, vous avez une forme de d'intoxication qui fait que, en fait, alors qu'il pourrait... il serait leur responsabilité de respecter la charte au mot près et de respecter les conventions contre la torture et contre la guerre sous toutes ses formes, et donc engendrer un effet vertueux au travers des autres États qui seraient amenés à quelque part s'inscrire dans cette pratique. On a vu en fait tout l'inverse. Et ce qui laisse entendre une chose, c'est qu'en fait la politique impériale des États-Unis en tant que tel, a fini par non seulement délier le consensus qui existait autour de certaines de ces questions graves, qui sont l'objet pourtant de résolutions de l'Assemblée Générale, de traités, de pactes onusiens, et j'en passe et des meilleurs, ce qui constitue quelque part une forme de bloc autour duquel tous les États se sont plus ou moins rassemblés, les conventions de Genève par exemple aussi. Pour en fait
en voyant ce qui se passe dans le monde, on pourrait légitimement se dire que les conventions de Genève ne concernent que le canton de Genève.
Mais, si vous voulez, nous avons les instruments. C'est pour ça que quand on entend les États-Unis récemment parler de l'ordre régi par les règles, pourquoi aurions-nous besoin d'un nouveau paradigme juridique? On en a un qui s'appelle la Charte des Nations Unies, qui a fait montre de son efficacité pour peu qu'elle soit promue et mise en œuvre par les États membres. Donc, quelque part, on crée des espèces de golems juridiques qui n'ont pas vocation à exister. si ce n'est pour marquer une forme de sécessionnisme de l'ordre juridique international tel qu'on a pu le connaître au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et on a vu ça à tous les niveaux, avec effectivement, vous l'avez mentionné, la redéfinition de certains prisonniers de guerre comme étant des combattants ennemis, ce qui permettait de les mettre dans une espèce de zone grise, juridiquement parlant, à Guantanamo. Guantanamo qui, passons, disons-le en passant, est une occupation illégale d'une partie du territoire cubain. Ce faisant, en pratiquant ensuite, en retransformant la définition juridique des actes de torture, comme étant plutôt des moyens...
Des moyens plus efficaces d'interrogatoire.
Voilà, et donc tout ça s'est validé ensuite par les instances juridiques de ces pays respectifs, que ce soit Alberto González à l'époque, qui était le ministre de la Justice, ou même des gens comme Lord Goldsmith, qui après avoir initialement enjoint Tony Blair de faire attention quant à s'impliquer dans la guerre irakienne, deux semaines plus tard, est revenu sur son opinion et a formulé quelque chose qui s'apparentait à une forme de connivence avec ce qui semblait être une politique assumée. Mais ça, on a entendu même certains hauts responsables du Royaume-Uni, comme l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui disait qu'il fallait que, je cite en anglais, il fallait que the facts soit ajusté à la politique poursuivie. Voilà. Et donc, tout était bon dans ce contexte-là. Je rajouterais à ça que dans cette coalition des désireux, coalition of the willing, comme on dit, qui était complètement une forme de, comme on appelle en parlance du Far West américain, vous savez, c'est les posse. On assemble rapidement des gens du village. En général, c'est celui qui contrôle toutes les terres, parce que l'affront, quel qu'il soit, doit être lavé. Et on ignore le shérif et on va faire justice nous-mêmes. Mmh, mmh. Donc c'est un peu ça, à ce à quoi on a assisté en 2003. Et dans cette posse, c'est le terme de rigueur, on retrouve, comme par hasard, l'Ukraine, déjà, hein, et la Pologne, dont on s'aperçoit qu'aujourd'hui, elle joue un rôle de plus en plus prédominant dans l'agencement de l'OTAN eu égard à son extension et à sa confrontation ouverte avec la Russie. Donc, c'est un processus qui est en place depuis une vingtaine d'années. Effectivement, ça s'est répété, et malgré les avertissements, on se rappelle de ce discours de février 2007 à Munich, au sommet de l'OTAN par Vladimir Poutine, où déjà là, il dit mais...
Il était très clair. C'était un discours historique et qui marquait un tournant, c'est-à-dire déjà une désillusion complète, en tout cas du président
russe. C'est intéressant d'ailleurs de voir l'expression des gens en attendance durant ce discours. Les Madeleine Albright, les Dick Cheney étaient là déjà. Le chef de l'OTAN, Stoltenberg, c'était déjà lui, je crois. Et John McCain était là aussi.
Oui, le secrétaire d'État à la Défense aussi.
Avec un dédain, voire même pour certains, on pouvait voir la haine.
Certains riaient avec dédain quand ils disaient que faites attention, il ne faut pas...
Donc, ils n'ont pas pris au sérieux. Alors, à leur insu, ils ne l'ont pas pris au sérieux. Et on s'aperçoit que, vous avez mentionné l'épisode libyen, c'est pareil. En 2011, on va dire en 2009, on a l'administration Obama qui arrive, on laisse entendre que c'est une nouvelle ère qui commence. On se retrouve avec Hillary Clinton au département d'État, qui appelle à un reset à l'époque avec la Russie. Ce qui fait que, quelque part, il y a cette volonté de la Russie d'avoir une relation apaisée avec les États-Unis pour la sécurité internationale. Hein, c'est assez cohérent. Et on s'aperçoit que cette patience, cette modération est quelque part, encore une fois, abusée par les Occidentaux, puisque dans l'affaire des résolutions 1970 et 73 concernant l'utilisation du chapitre 7 pour la Libye...
C'était pour créer une zone d'exclusion aérienne
pour protéger la population civile de Benghazi.
Des bombardements, entre guillemets, des bombardements des avions...
Pour empêcher les blindés de Tripoli d'arriver sur place et de commettre...
Et ça a été utilisé après pour envoyer les bombardiers...
Tout à fait.
De la Libye. Bien. Alors, une autre, quand même, note que j'aimerais bien rappeler, le 1er décembre 2008... Alors, le président George Bush, Walker Bush, a reconnu l'erreur, comme il le dit, américaine dans un entretien sur la chaîne de télévision ABC News. Je le cite, « Le plus grand regret de toute cette présidence, » il parle donc de sa présidence, « consistera dans la défaillance du renseignement en Irak. » Donc,
oui,
il reconnaît, donc...
Il reconnaît rien, il blâme ses agences de renseignement.
Oui. C'est-à-dire, non, mais ce qu'il reconnaît, c'est qu'il y a eu quand même de fausses informations et qu'une guerre a été déclenchée sur la base d'un rapport de renseignement faux. Mais il y a plus. En 2013, dans un entretien à l'Obs français, Colin Powell, donc qui rappelons-le, est parti avec sa petite fiole aux Nations Unies pour montrer que l'Irak avait les armes de destruction massive. Et il déclare aussi dans cette interview, je le cite, « Depuis que j'ai découvert qu'un grand nombre d'informations que l'on m'avait fournies étaient inexactes, je ne cesse de me demander qu'aurais-je dû faire pour éviter cela. » Voilà. Alors, il s'est justifié. « Ce n'était pas un mensonge délibéré de ma part. Je croyais à ce que je disais. » Alors, en 2015, le rapport des services dans l'enseignement, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, utilisé par l'administration Bush pour justifier l'invasion de l'Irak en 2003, a été déclassifié et rien n'y indique dans ce rapport que l'Irak avait les armes de destruction massive et que Al-Qaïda avait des relations avec... Donc, pour dire aussi ici, parce que là, il y a un double mensonge. Il accuse les renseignements d'avoir menti, alors qu'en réalité, c'est lui qui ment, parce que le rapport déclassifié montre que les services de renseignement avaient fait leur travail. Ma question, en quoi l'opération militaire spéciale russe en Ukraine est-elle plus condamnable ou inhumaine que les guerres menées par les États-Unis et leurs alliés dans plusieurs pays arabes, européens et asiatiques? Et quid des violations des droits de l'homme quasi quotidiennes en Palestine par l'armée israélienne?
Alors oui, il y a beaucoup à décortiquer là. De toute évidence, la première vertu de l'opération militaire spéciale russe, si on prend les choses de manière un peu crue, c'est de servir de miroir aux critères retenus par l'Occident quant à leurs propres agressions militaires engagées ces 20-25 dernières années. Parce que dans le cadre de l'opération militaire spéciale russe, on a un processus diplomatique qui existe depuis 8 ans, avec tous les l'apanage nécessaire à démontrer que tout a été mis en œuvre pour résoudre une situation donnée de manière pacifique et en conformité avec le droit international. Et qui plus est, depuis le déclenchement d'opérations militaires spéciales russes, on a aussi des indications que tout a été fait pour minimiser, autant que peut se faire, les effets de la guerre sur les populations civiles. Alors, je ne dis pas que forcément la guerre, c'est la dernière extrémité, et on sait que ce n'est pas une affaire chirurgicale, hein. Il peut y avoir des erreurs commises. Mais toujours est-il que la Russie, dans son interaction, dans la mise en œuvre de son opération militaire spéciale, en tout point, contraste avec ce qu'on a pu voir l'Occident faire, donc, que ce soit l'épisode libyen, l'épisode irakien, l'épisode syrien, n'oublions pas aussi. Parlons de la Syrie, puisque la Russie est aussi présente militairement en Syrie, mais elle est à l'invitation du président Bachar el-Assad. Alors que les Américains occupent un tiers du nord-est du pays, qui pourtant est la portion la plus importante pour pouvoir permettre au pays de se reconstruire.
Là où il y a les gisements de pétrole.
Voilà, on sait que malgré... les déclarations que personne ne croit, comme quoi il s'agit d'empêcher Al-Qaïda de mettre la main sur le pétrole. On a des rapports assez fiables que ce pétrole est en fait... Et d'ailleurs, on avait cette société américaine établie à la va-vite au Delaware, vers la fin de l'administration Trump. Ça avait été repris en août 2020 par à l'époque Mike Pompeo, qui avait confirmé l'existence de cette société, et ils se privaient pas de dire qu'ils exploitaient illégalement, ils pillaient le pétrole
syrien. Et rappelons que le Delaware est un paradis fiscal.
Et que c'est l'État de Joe Biden.
Ouais, c'est un paradis fiscal, donc là où on ne contrôle pas, on se fiche.
C'est
d'où
ça.
Vient l'argent, comment il sort, comment il s'en est échangé. Et tout.
C'est qu'une coïncidence, bien sûr. Et tout ça pour dire que, voilà, on peut regarder de région en région, effectivement, et faire un compare, une contrast entre, pour peu que les Russes soient présents militairement et en même temps que les Américains, et on voit que le contexte juridique est complètement différent, encore une fois. Et que qui a 800 bases dans le monde ? Les Américains. Mm-hmm. Les Russes en ont deux. Donc, tout ça, ça caractérise, ça dénote une certaine configuration qui laisse entendre que les États-Unis ne sont pas tant pour, empêcher les conflits que plutôt essayer de les provoquer en ayant accès de manière ponctuelle à des infrastructures qui leur permettent de se ravitailler et de venir mettre leur nez dans des régions où, disons-le tout de go, ils n'ont rien à faire. Et je parle de cela, et vous avez évoqué ça en ouverture, à la situation dans la mer de Chine. Mmh. Vous voyez, donc, avec aussi l'établissement de l'AUKUS, voilà, qui est une forme de sous-régionalisation de l'OTAN. En cette visite récente au Japon, de certains hauts responsables de l'OTAN qui laissent entendre qu'on se dirige vers un OTAN global. Mmh. Donc, quel est le message qu'il faut retenir de tout ça ? Surtout quand on sait que les Américains, et Trump s'en plaignaient, financent l'essentiel des budgets de l'OTAN. Ouais. Donc, quelque part, tout est relié de cette manière, et on s'aperçoit qu'il n'est nullement question de mener une politique étrangère qui soit mesurée et symétriquement proportionnée à ce qui peut se présenter. C'est vraiment...
Alors, une dernière question, Monsieur Develay, en tant que juriste en droit international. Alors, la comparaison entre les deux aspects-là de ce qui se passe en Ukraine avec tout ce qui s'est fait dans beaucoup de pays depuis la chute de l'Union soviétique. Hein, nous allons nous en tenir uniquement à ça. Nous ne parlons pas du Vietnam, nous ne parlons pas de la guerre de Corée, en Afrique, en Angola, et ainsi de suite. Mais parlons juste de ce qui s'est passé après l'Union soviétique. Est-ce que nous ne sommes pas en train, on passe de refaire les mêmes erreurs du procès de Nuremberg qui a condamné les lampistes du régime nazi et blanchi ces cerveaux qui ont d'ailleurs été recyclés aussi bien en politique qu'en défense, notamment à l'OTAN. Est-ce que cet aspect-là, voilà, on condamne pour faire plaisir et bien paraître devant la galerie, mais en réalité... on laisse les vrais criminels qui mènent, comme disait Montesquieu, hein, les vrais responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent, mais ce sont ceux qui les rendent inévitables.
Alors, c'est très intéressant comme question. Alors, déjà, je pense que pour pouvoir traduire les hauts responsables devant un tribunal international, il faut gagner la guerre. C'est une condition sine qua non. Donc, tant que vous n'avez pas gagné la guerre, vous ne pouvez pas procéder au jugement de ces hauts responsables. Après, je pense que vous faites allusion aussi aux chefs d'entreprise, les corporations, les propagandistes. Ouais. Et on en a beaucoup en Occident en ce moment qui sévissent et qui ont des déclarations, des propos irresponsables, qui rajoutent de l'huile sur le feu. Je vais pas le citer pour lui faire de publicité, mais on a un philosophe bien connu qui en France nous dit maintenant que la France est tout à fait co-belligérante. Alors vous imaginez ça venant de quelqu'un qui a joué un rôle disproportionné à sa personne à l'époque dans l'affaire libyenne et qui l'a toujours reconnu et s'en est vanté par la suite d'ailleurs malgré l'instabilité chronique que ce pays vit depuis plus d'une décennie maintenant. Donc, encore une fois, oui, et il existe d'ailleurs des jurisprudences maintenant. Nuremberg a eu des procès qui ont été, alors avec plus ou moins de succès comparé aux structure étatique en place, mais certains hauts responsables d'entreprises, de manufactures, d'usines ont pu voir leurs responsabilités mises en cause, mais c'est quelque chose qui devrait être certainement développé davantage et certainement étendu, encore une fois, aux organes médiatiques, parce que quand on voit l'influence, le pouvoir que la sphère médiatique peut occuper, comment la sphère médiatique peut façonner une opinion publique sans laquelle il ne pourrait pas y avoir un accord, une volonté de participer à un conflit, on se dit que quelque part, il va falloir certainement élargir, redéfinir. Peut-être le critère d'incitation comme étant une forme de complicité à ce qui prépare le terrain à une agression militaire. Mmh. Hein? Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour peut-être redéfinir encore les rôles des uns et des autres. Dans une société où liquide maintenant, où tout le monde est un journaliste en puissance, avec les moyens dont nous disposons, tout le monde peut, si je puis dire, au travers d'un compte Twitter, toucher des millions de personnes. Il ne s'agit bien sûr pas simplement maintenant des hauts responsables ou des acteurs économiques et ou financiers qui se cachent derrière, et dont les, comme disait Smedley Butler, l'ancien Marines, c'est toujours, on envoie toujours les pauvres aux guerres pour pouvoir protéger les intérêts des riches. Mais dans ce contexte-là aussi, maintenant, c'est effectivement poursuivre, et on a une jurisprudence, puisque je crois que le propriétaire de la radio des Mille Collines au Rwanda a été amené à, si je puis dire, être mis en cause dans ses discours qui étaient de l'incitation au génocide en 94. Donc il y a des jurisprudences qui concernent les gens de IG Farben pour la Seconde Guerre mondiale, c'est bon. Mais je pense que ça doit être davantage développé et généralisé, parce que le problème, c'est que très souvent, ces gens-là, ils échappent, si je puis dire, à la punition, à la justice. Ils se recyclent, ils changent le nom des sociétés, ils se rachètent une conduite.
Mais ils continuent.
Et ils continuent jusqu'à ce que leurs intérêts coïncident plus tard, ça peut être plusieurs décennies, mais en tout cas, voilà, à nouveau, avec ceux qui, pour des raisons politiques, de carriérisme politique, ou d'institution, du fait d'appartenir à un ensemble administratif, structurel, relevant d'un complexe militaro-industriel, et donc il y a beaucoup d'argent à se faire, d'armes à vendre, voire des marchés à conquérir, et on ne peut que le faire qu'avec la force militaire, ça c'est la stratégie américaine depuis la fin du 19e siècle. Et on le voit aujourd'hui en Ukraine, puisque la personne, le tsar en charge de l'Ukraine, c'est Victoria Nuland. Elle est mariée à qui ? Elle est mariée à Kagan. Mm-hmm. Donc Kagan joue l'interface avec Wall Street, et elle, de par son statut de fonctionnaire permanent au sein de la bureaucratie fédérale, elle fait avancer le dossier, elle est en charge en fait de tous les ex-pays de la CIS. Et on sait que, in fine, le prix ultime, la récompense, c'est la Russie. Ils ne feront pas de secret. Alors après, ils utilisent des méthodes où ils accusent, le pouvoir russe de colonialisme à l'encontre de ces minorités, pour pouvoir manipuler l'opinion publique contre le pouvoir central. Mais ça, c'est juste des moyens qui sont déployés pour manipuler
D'accord.
Voilà. Mais l'idée, c'est effectivement de diviser la Fédération de Russie en 22 entités, à l'instar de ce qu'on a pu voir au Moyen-Orient, ethno-culturel, religieux, entretenir le chaos de telle sorte qu'il soit impossible de réorganiser des structures capables de résister aux financiers, bien compris, et se partager le pays et dépecer le pays, essentiellement.
D'accord. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Arnaud Develet, je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à poser cette question grave et problématique et ses conséquences, cette question de la justice et de la justice internationale. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci. C'était Arnaud Delay, juriste en droit international, consultant politique et journaliste. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Spoutnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.